Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Sporama, votre émission sportive de tous les lundis. Nous parlons de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Eric Manilakiza avec vous à la présentation. Nous serons avec notre envoyé spécial à Abidjan, Yacouba Ouedraogo, Amine Birouk, notre consultant sportif qui se trouve à San Pedro en Côte d'Ivoire. Jules Valentin Ngwe, Élisée Ungpatine et Amédine Si seront tous dans cette émission. Yacouba Ouedraogo, comme en 1984, 40 ans après, la Côte d'Ivoire quitte la CAN par la petite porte. Les éléphants ne verront pas les huitièmes de finale. À quoi va ressembler cette CAN après l'élimination de la Côte d'Ivoire, Yacouba?
Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Bonsoir chers amis auditeurs. Écoutez, nous venons juste de sortir. Je viens juste de sortir du stade Alassane Ouattara. DBMP, plus qu'une défaite, plus qu'une élimination probable. Sans oublier qu'il y a les 4 meilleurs, 3e qui seront repêchés. La Côte d'Ivoire est loin, seulement 3 points pris en 3 sorties. Et donc je le disais, plus qu'une défaite, plus qu'une élimination, c'est une humiliation ici en Côte d'Ivoire. Et les supporters l'ont fait sentir dans le stade, avant même, dès que les Équatoriens Guinéens ont marqué le deuxième but, ils ont commencé à vider le stade. Il restait encore autour de 25 minutes à jouer. Et présentement, il y a eu des jets, bien sûr, de bouteilles d'eau sur certains joueurs et sur le coach. Les discussions vont être à Abidjan et bien. Donc elle discute, la sélection même, j'allais dire, le choix de Jean-Louis Gasset comme coach des éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters en parlent, les choix aussi du coach posent problème. Et je le dis, Abidjan va dormir peut-être tout à l'heure à 20h ce soir parce que c'est une grosse humiliation. Vous savez, ils l'ont répété, les supporters et tous ceux qui étaient dans le stade. Le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a mis beaucoup de moyens dans cette CAN-là. Et donc une sortie prématurée dans le premier tour sonne comme une grosse sorte défaite difficile à digérer ici à Abidjan.
Yacouba, est-ce qu'on a vu venir ce naufrage parce que l'équipe a sombré?
Pas du tout, parce que les Ivoiriens étaient confiants. On a parlé à quelques supporters avant le match, ils étaient tous confiants se disant ils sont dos au mur, ils doivent gagner impérativement ce soir pour passer à l'étape des huitièmes de finale. Ils y croyaient, on les a croisés, ils étaient nombreux, à prendre d'assaut les gradins du stade Alassane Ouattara DBMP. À l'arrivée finale, et bien, c'est une humiliation. Ils sont très déçus. Ils l'ont fait savoir, vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les gens ont la langue très facile, ils parlent et ils l'ont fait savoir. Et je pense que dans les jours à venir, et bien, ça va beaucoup discuter de football, d'entraîneurs, de choix de joueurs dans les marchés, dans les kiosques et partout ici à Abidjan.
Yacouba, avant de te libérer, je sais que tu dois faire beaucoup d'interviews. La Côte d'Ivoire a apparemment perdu le match pendant les 40 premières minutes.
Écoutez, on dirait que la Côte d'Ivoire a perdu le match dès le début. Vous avez vu, on n'a pas senti d'âme, on n'a pas senti d'esprit derrière cette équipe de la Côte d'Ivoire. C'était juste, nous jouons au football, on est dans notre terrain, on joue notre football. C'était similaire à ce qui s'est passé avec le Nigeria. Les supporters, les fans ivoiriens ont reproché aux coachs et aux joueurs d'avoir une âme dans le jeu. Cela se reproduit ce soir et donc ça dit à quel point cette équipe n'est pas profonde. Même si elle a des joueurs individuels, elle n'a pas de qualité collective et c'est ce qui s'est ressenti ce soir. Alors que les Équato-Guinéens avaient la maîtrise du jeu. Ils ont été acculés, beaucoup acculés en première mi-temps. Ils sont restés sereins, tentant tout simplement d'arrayer les multiples assauts des Ivoiriens. Et l'ont réussi à faire parce que derrière, eh bien, ils sont allés vite. Ils ont joué très intelligent et ils ont ouvert le score. Et vous l'avez suivi, les buts se sont enchaînés pour les Équato-Guinéens. Bravo à eux, ils finissent, ils se rappeler, premier de la poule A, étonnamment, devant le Nigeria qui a aussi gagné du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, toujours ici à Abidjan 1-0 devant la Guinée-Bissau. Donc le Nigeria et la Guinée équatoriale vont rejoindre les huitièmes de finale. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a encore, je le répète, ces 4 meilleurs 3e qu'on va repêcher, mais je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse s'inscrire dans cela parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont présentement 4 points, alors que la Côte d'Ivoire n'a que 3 points en 3 sorties.
Et les buts encaissés comptent beaucoup. La Côte d'Ivoire qui vient d'encaisser donc 4 buts. Merci Yacouba Ouedraogo pour toutes ces précisions. Je rappelle que tu es notre envoyé spécial de VOA Afrique à Abidjan, en train de suivre cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Nous avons Amine Birouk en ligne qui se trouve à San Pedro, toujours en Côte d'Ivoire. Amine, qu'est-ce qui se passe là où tu te trouves? La réaction des Ivoiriens, le verdict vient de tomber dans ce groupe A avec le pays hôte éliminé. C'est la première surprise à un goût amer pour les éléphants et le pays tout entier.
Oui, certainement. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Grosse déception pour le peuple ivoirien, pour les supporters de football ivoirien. Nous avons vu tout à l'heure sur la fan zone à San Pedro beaucoup de gens qui étaient prédéterminés à pousser les éléphants vers une qualification qui leur tendait la main. Il suffisait de gagner le match contre la Guinée équatoriale. Qui aurait imaginé, franchement, Eric, au moment du tirage au sort, il y a quelques semaines à Abidjan, que dans un groupe avec les deux Guinées, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, et un Nigeria qui n'est pas au meilleur de sa forme, que le pays organisateur serait troisième de la compétition et quasiment éliminé, parce que il va falloir un concours de circonstances avec des probabilités, au moins deux probabilités sur six pour que l'équipe de Côte d'Ivoire se qualifie en tant que meilleur troisième. Hein. Il faudrait déjà que sur le match qui se déroulera tout à l'heure entre Mozambique et le Ghana, qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Il faudrait aussi que l'Algérie perde ou que la Tunisie perde avec contre l'équipe d'Afrique du Sud, que la Namibie perde. C'est un concours de circonstances inimaginables. L'histoire est un éternel recommencement. Oui, Eric, l'histoire est un éternel recommencement. Il y a 40 ans déjà, ils avaient connu la même déconvenue, ils avaient gagné le match d'ouverture, puis subi l'ascendant du Cameroun et de l'Égypte. Oui, Eric.
Oui, Amine, c'est Jules qui est en train de nous appeler. Jules, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de la Côte d'Ivoire? Donnée favorite avant la compétition, il faut le dire. Jules Valentin, oui. Est-ce que vous nous
entendez? Je vous entends, mais oui. Très faiblement.
Oui, Jules,
oui. Posez-moi la question, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de la Côte d'Ivoire donnée favorite avant le début de cette compétition?
Mais justement parce qu'elle était donnée favorite, donc elle avait une grosse pression, et pression internationale et pression locale. On sait que dans les grandes compétitions, depuis quelque temps, la pression interne ennemi est très importante. La France l'a testé en 2016 pendant son Euro. Le Portugal, qui n'avait fait que 3 matchs nuls, s'est contenté d'un seul but en finale pour gagner le trophée à la place de la France, qui avait une grosse équipe. Et ça a été la même chose en Russie, où la France avait par contre une équipe qui pataugeait dès le début de la compétition, mais qui a bien fini. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite au premier match par 2-0, mais elle a fini par gagner la coupe au nez à la barbe du Brésil ou bien de la Belgique. Donc il y a ça dans les grandes compétitions actuelles. Il faut éviter de donner la pression à l'équipe. Et il y a aussi la philosophie du jeu que je viens de défendre là tout de suite. Il y a par contre ce qu'on peut y ajouter, c'est la méconnaissance de la Guinée qui a avancé masquée, pourtant avec toujours les mêmes stratégies efficaces. La Guinée fait une préparation très discrète. Elle a évité un match amical contre le Cameroun pour qu'on la découvre pas. Et elle vient généralement pour défendre et placer tous ses espoirs dans la contre-attaque. Et ça lui réussit très bien avec des binationaux ou bien des nouveaux nationaux qui sont intégrés. Donc je crois que c'est tout cela que la Côte d'Ivoire a reçu sur la tête aujourd'hui pendant un jour sans.
Sa stratégie, la stratégie donc de la Guinée équatoriale a fini par payer. Élisée, on patine. Jules parle de pression, mais la Côte d'Ivoire avait quand même gagné son match inaugural qui devait, disons, conforter et apaiser les esprits, quoi.
Justement, Eric, cette première victoire inaugurale, la Côte d'Ivoire l'a remportée 2-0 et contre la Guinée-Bissau. Mais les Ivoiriens n'ont pas convaincu. Et si vous vous souvenez qu'on en a débattu ici lundi dernier, les Ivoiriens n'ont pas totalement convaincu. Et en témoigne leur seconde sortie qu'ils ont perdu contre le Nigeria. Le Nigeria qui tactiquement était plus fort. Et c'est à ce niveau-là que les Ivoiriens n'ont pas trop convaincu niveau tactique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un jour sans. Et la pression a eu raison, je le dirais aussi, puisque ça fait une seconde fois que, en tant que pays organisateur, la Côte d'Ivoire n'ira pas au second tour. Déjà en 1984, les Ivoiriens ont été éliminés dès le premier tour. Et les Ivoiriens, il faut dire que l'enjeu a pris le pas sur le jeu, puisque tellement les Ivoiriens veulent aller chercher le trophée, où il y a une forte pression du public sportif ivoirien qui, quand même, a eu raison de ces joueurs-là. C'est vrai que l'équipe ne joue pas très bien. C'est pour ça que je disais que le premier match, ces joueurs l'ont emporté 2-0, mais ils n'ont pas trop convaincu dans le jeu. Et résultat, les deux matchs qui ont suivi, défaite contre le Nigeria 0, et puis l'humiliation aujourd'hui. C'est vrai que, bon, c'était un jour sans, puisque à chaque fois qu'ils égalisaient, eh bien, le buteur se trouvait en position d'irrégularité, en position de danger. Donc, c'était pratiquement scellé. C'était pas une chance. Les Ivoiriens n'étaient pas du tout dans une très bonne chance cet après-midi. Donc, comme on le dit à Baby, Yako, hein, pour cette équipe ivoirienne.
Ahmedine Sy, vous avez suivi cette équipe de la Côte d'Ivoire, vous avez suivi les différentes rencontres depuis le début de la compétition. On a vu les joueurs ivoiriens sur le terrain qui semblaient ne pas réaliser ce qui était en train de leur arriver.
Tout à fait, Eric, vous avez raison, hein, puisque les éléphants ont vu leur pire cauchemar se transformer en réalité. Au fur et à mesure d'une partie pourtant sur le papier qui leur était favorable. Mais en football, on ne sait jamais, puisque aujourd'hui, on a vu, moi, je voudrais m'arrêter sur la performance des Équato-Guinéens. C'est eux qui ont fait le match parfait. Donc, ils ont, dès le début de la partie, ils ont fait douter ces Ivoiriens, puisqu'ils étaient devant leur public, ils devaient jouer pour gagner. Donc, les Équatoriens ont attendu, ils ont fait douter. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils ont marqué dès leur première occasion, ils ont ouvert le score. Et ils ont attendu encore les Ivoiriens pour leur marquer 2, 3 et 4 buts. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Mais moi, je voudrais attirer l'attention quand même de tous les Africains sur cette équipe équato-guinéenne. Je pense que la CAF doit se penser sur cette équipe équato-guinéenne qui est composée à majorité des joueurs venant du Brésil et de l'Espagne, parce que si on ne fait pas attention, un jour, une équipe qui n'est pas du tout africaine va gagner cette CAN. Donc, ce sera dommage, Eric.
Merci Ahmedine. On parlait donc de la Côte d'Ivoire qui risque d'être éliminée. Nous parlons donc de la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Amine, il y a deux équipes qui étaient déjà qualifiées avant la troisième journée, le Sénégal et le Cap-Vert, à l'issue donc qui se sont qualifiées à l'issue de la deuxième journée. Le Maroc n'a pas réussi à assurer sa qualification. Qu'est-ce qui lui a manqué, Amine? Vous avez suivi cette formation.
Il a manqué un peu de chance dans le réservoir, parce qu'ils ont joué à 14h à San Pedro, et à 14h à San Pedro, il faisait 32 degrés, plus 90%, ou 97% d'humidité. L'équipe du Maroc est partie très forte sur le match contre l'équipe de Valdez, avec un but inscrit dès la quatrième minute. La situation semblait contrôlée, mais l'équipe du Maroc n'a pas pu enfoncer le clou. Et puis les Congolais ont repris l'ascendant parce que physiquement, il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Les joueurs marocains avaient peut-être jeté toute leur force dans la bataille en première mi-temps. Et ils ont eu du mal à tenir sur la durée du match. On a vu une équipe très hargneuse de RDC, très physique, avec beaucoup de talent. Le coaching de Sébastien de Sabre a eu raison de celui de Walid Regragui avec l'entrée de joueurs de percussion en fin de rencontre, et finalement la RDC a pu obtenir le but égalisateur. Elle aurait même pu obtenir mieux en toute fin de rencontre, mais on le dit souvent dans le jargon du football, quand tu ne peux pas gagner un match, ne le perds surtout pas. C'est ce qu'a fait l'équipe du Maroc, qui garde les commandes du groupe S avec 4 points et qui a encore son destin en main pour finir première de son groupe. Il suffirait de battre une très bonne équipe de Zambie, on l'a vu contre la Tanzanie et contre la RDC, pour pouvoir finir premier, rester à San Pedro et devoir affronter le deuxième du groupe E, le groupe de Congo.
Élisée, on patine. Parlons maintenant du groupe B. L'Égypte et le Ghana sont avertis. Ils doivent jouer dans quelques minutes. Le Mozambique peut battre le Ghana, tandis que le Cap-Vert, déjà qualifié, peut renvoyer les Égyptiens au Caire.
Bien évidemment, c'est pratiquement une CAN très relevée, il faut le dire, Eric. Depuis 2019, eh bien, la Coupe d'Afrique des Nations a changé complètement de dimension et à chaque édition, après celle de 2019, eh bien, le niveau augmente et c'est ce que nous sommes en train d'assister aussi. C'est vrai, on parlera de surprises parce que bon voilà, la Guinée équatoriale vient de battre la Côte d'Ivoire, c'est vrai, puisqu'en termes de palmarès, la Côte d'Ivoire devant la Guinée. Mais depuis un bon moment, eh bien, il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. C'est ce que je voulais dire. Donc, les équipes ont changé de dimension. Il y a eu plus d'engagement. Il y a plus maintenant. Les équipes se sont améliorées techniquement et surtout tactiquement. Donc, attention à l'Égypte puisque le Cap Vert n'a pas 6 points pour rien. C'est d'ailleurs le premier pays à avoir pu se qualifier pour le second tour. Donc, attention à cette équipe égyptienne qui, depuis le début de la compétition, ne m'a pas du tout convaincu face au Mozambique qui véritablement n'est pas une foule de guerre et surtout face au Ghana où les Ghanais se sont passés deux fois à côté de remporter les trois points de la rencontre. Donc l'Égypte doit augmenter le niveau de son jeu si elle veut quand même passer au second tour, encore que en l'absence de Mohamed Salah blessé. Donc vous imaginez, c'est une situation très délicate pour les Égyptiens. Maintenant les Ghanéens aussi doivent déjà apprendre de leurs erreurs face à l'Égypte et doivent beaucoup se méfier de cette formation mozambicaine qui n'a plus rien à gagner.
Ahmedine, si nous allons assister à une finale avant la finale, n'est-ce pas? L'enjeu est majeur. Dans le groupe B.
Par rapport à groupe B, oui.
Égypte, Cap-Vert, Mozambique, Ghana.
Oui, c'est un groupe équilibré puisque après deux journées, il n'y a qu'une seule équipe qui s'est détachée, c'est le Cap-Vert, puisque le Cap-Vert a 6 points, 2 victoires, 2 matchs, 2 victoires. Donc, le Cap-Vert a composé son ticket pour les huitièmes de finale. Maintenant, il reste trois équipes pour une place ou une place et demie, puisque le deuxième se qualifie directement, mais le troisième pourra éventuellement se qualifier comme meilleur troisième, puisque l'Égypte a 2 points. L'Égypte a concédé 2 nuls. Ils ont marqué 4 buts et ils ont encaissé 4 buts. Le Ghana qui est troisième. Compte 1 point, donc le Ghana, 1 point moins 1, donc le Ghana doit négocier. Et le quatrième aussi, Mozambique, n'est pas encore éliminé, puisque les Mozambiquais ont 1 point. Maintenant, on va voir, puisque est-ce que le Cap-Vert va faire tourner son effectif face à l'Égypte pour pouvoir garder quand même ses joueurs lors des huitièmes de finale, puisque le Cap-Vert n'a plus rien à perdre. Maintenant, c'est à l'Égypte de jouer le jeu pour décrocher sa qualification. Maintenant, concernant la seconde rencontre, Mozambique-Ghana, ce sera des 50-50 puisque aucune équipe n'est qualifiée et aucune équipe n'est éliminée. Comme vous l'avez dit, Eric, on va assister à deux finales tout à l'heure.
Ahmedine, le Sénégal domine le groupe C avec 6 points et 6 buts. Et le Sénégal est déjà qualifié. Mais il y a un enjeu majeur pour la première place parce que si la Guinée bat les Lions de la Teranga, eh bien, le Sénégal risque de... Si le Sénégal est battu, il perd la première place. Et qui peut lui mettre en difficulté lors des huitièmes.
Vous avez raison. Le Sénégal qui a composé son ticket dès les deux premiers matchs, 6 points. La Guinée qui arrive avec 4 points. Non seulement le Sénégal, s'il perd ce match, pourra se retrouver à la deuxième place, mais c'est un derby. Et les matchs Sénégal-Guinée ont été toujours des matchs très difficiles, des matchs âprement disputés. On se rappelle encore en 2021 à Bafoussam. Le Sénégal avait joué la Guinée, on partageait le même groupe et les deux équipes s'étaient quittées dos à dos. Et le Sénégal, finalement, qui avait démarré timidement cette compétition, avait gagné cette CAN pour la première fois du soir. Donc, ces deux équipes qui se connaissent, qui vont se rencontrer. Mais ballotage un peu favorable quand même pour l'équipe du Sénégal qui a 6 points plus 5 alors que la Guinée a 4 points plus 1. Donc, le Sénégal pourra gérer parce qu'un nul permettra au Sénégal de conserver son fauteuil de leader, Eric.
Jules, vous nous entendez? Tu nous entends?
Oui, très bien.
Oui, alors, le Burkina Faso est en tête du groupe D avec 4 points, suivi par l'Algérie. Et comment tu vois l'issue des matchs de la troisième journée dans ce groupe? On a vu le Burkina Faso qui a amélioré sa performance lors du match contre l'Algérie.
Oui, bien sûr, un match où il y avait une opposition de style, mais où l'Algérie avait plus à perdre en cas de défaite, ce qui lui donnait une certaine pression. Bon, donc le Burkina Faso a joué un peu plus libre. Donc je crois que pour les derniers matchs, il faut suivre de près cette équipe d'Algérie qui cherchera à tout prix à passer, qui a les moyens d'aller très loin dans la compétition, mais pourvu que ses nerfs tiennent. Bon, alors, à côté de cela, le Burkina Faso est une valeur sûre et avec lui, on sait que quel que soit le match et qui est joué, il met tout en jeu comme si c'était un match à élimination directe.
L'Angola n'est pas moindre non plus.
L'Angola, bien sûr, est venu avec d'autres arguments contre les autres équipes lusophones. Et il a puisé également dans son réservoir de binationaux en se tournant vers un vivier qui n'est pas le moindre dans le monde, c'est-à-dire le vivier brésilien. Et donc, c'est pas n'importe quelle équipe d'Angola qu'on retrouve là, c'est une équipe en pleine confiance et qui a souvent produit de bons jeux, mais sans aller loin. Mais cette fois-ci, je crois que les Angolais auront à cœur, à côté de l'Afrique du Sud, de défendre la cause de l'Afrique australe.
Amine, le Mali est en tête du groupe D. On a vu à l'Afrique du Sud battre la Namibie qui se positionne du coup pour se qualifier. Quelle est votre lecture dans ce groupe?
Bon, tout est possible dans ce groupe, mais a priori, avantage pour les Maliens qui ont 4 points, qui vont pouvoir gérer face à la Namibie. Sur le papier, il y a une grosse différence entre les deux équipes. Mais attention à ces Namibiens accrocheurs qui avaient réussi à battre la Tunisie lors de leur entame de la compétition. Mais on a vu aussi qu'ils étaient revenus, que l'Afrique du Sud les avait respectés, qu'elle avait réussi à mettre en évidence les lacunes de cette équipe namibienne. A priori, la finale pour la deuxième place, elle opposera l'Afrique du Sud à la Tunisie. Et les Tunisiens sont en ballottage défavorable. Ils risquent de quitter la compétition par la petite porte. On les a vus plus fringants face au Mali samedi. Mais on va voir s'ils sont capables de d'avancer un peu plus, de repousser leurs limites pour pouvoir se qualifier sous peine d'avoir une très grosse déception dans cette CAN. A priori, avantage au Mali et à l'Afrique du Sud dans cet ordre pour passer dans ce groupe 5.
Alors, il y a de grandes nations de football, le Cameroun, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, la Tunisie, vous venez de le dire, on n'est pas à l'abri d'autres mauvaises surprises, comme on dit, Amine, en quelques secondes.
Oui, certainement. Il y a aujourd'hui un nivellement de valeur en Afrique. Il n'y a plus de petites équipes. On ne joue plus seulement pas parce qu'on s'appelle le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana ou le Cameroun. On joue sur sa valeur. L'arrivée de joueurs expatriés, de binationaux, a contribué à ce rééquilibrage. Et puis les conditions climatologiques qui permettent à certaines équipes qui se sont mieux préparées, qui ont mieux préparé leur coup de faire justement ce sensation dans cette CAN. On s'attend à une CAN des sensations et des surprises. On est servi.
Élisée, la domination du Maghreb au niveau du football africain, ça c'est une vieille histoire.
Oui, une vieille histoire. Heureusement que le Maroc est là, le Maroc aussi, qui doit faire très attention hein, pour son dernier match. Donc aujourd'hui, l'Égypte est en difficulté, l'Algérie aussi et surtout hein, la Tunisie qui a évité de justesse l'élimination face au Mali. Donc le Maghreb est en difficulté et comme je l'ai dit, il y a un nivellement de valeur désormais en Afrique et depuis un bon moment, la Coupe d'Afrique des Nations devient de plus en plus difficile.
Amédine, qu'est-ce que tu retiens de cette CAN à ce stade de la compétition en 10 secondes?
Moi, je retiens de cette CAN que c'est une CAN où on marque beaucoup de buts. 72 buts en 26 matchs, vraiment, c'est énorme. Si vous regardez tous les groupes, on a marqué beaucoup. Dans ce groupe qui vient de se terminer, groupe A où il y avait la Côte d'Ivoire, 16 buts ont été marqués. Donc, vraiment, c'est une CAN où il y a beaucoup de buts.
Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Yacouba Ouedraogo, notre envoyé spécial, Amine Birouk, Jules Valentin Goué, Elise Ongpatine, Abendi Nsi, Eric Manila qui a été avec vous à la présentation. Georges et Léonard Sagnot a assuré la mise en onde. Je vous retrouve lundi prochain dans